Bonjour à tous. À la une ce matin, un nouveau sur les routes, l'implacable radar Tourelle, capable de flasher sur 8 voies de circulation. Il est surtout hors d'atteinte des casseurs. Le grand débat à l'Assemblée concourt l'épine sur la fiscalité ce soir. Les députés de la majorité proposeront de baisser les impôts des classes moyennes. Quelles sont les solutions de votre invité, Nicolas ? Réponse dans 20 minutes.
Avec l'ancien président de la République, François Hollande, invité du grand entretien de la matinale. Il publie une nouvelle édition enrichie de son livre Les leçons du pouvoir, désormais disponible au livre de poche. 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application France Inter pour dialoguer avec lui tout à l'heure.
À la une également, l'Algérie au temps de la transition Bouteflika, la vie au temps des coupures d'eau au Venezuela, les petits secrets et les gros millions de Carlos Ghosn, nouvelle enquête de la justice en France, la journée de l'autisme. Gros plan sur la méthode 3i qui fait progresser les enfants. Et du théâtre signé Arthur Miller, le retour des sorcières de Salem, quasiment plus monté depuis les années 50.
France Inter.
Ce sont de grosses boîtes cassées sur le bord des routes, trois quarts des radars endommagés depuis le début du mouvement des gilets jaunes mi-novembre, et les automobilistes accélèrent et les morts de la route se comptent par dizaines supplémentaires, 17% de plus au mois de février, directement imputé à l'acharnement sur les radars. Eh bien, voilà la parade, le dernier né de la sécurité routière, un tout nouveau radar qui se déploie sur le territoire, robuste, Mathieu Mondoloni, et redoutable pour les contrevenants.
C'est un véritable radar du futur, on l'appelle le radar Tourelle. Il y en a actuellement une dizaine déjà déployés en France. Perché sur un mât de 4 mètres, il sera beaucoup plus difficile de le casser que ses prédécesseurs, indique le ministère de l'Intérieur. Une hauteur qui lui permet de scanner 8 voies de circulation et plusieurs véhicules en simultané, mais aussi de faire la différence entre un poids lourd et une voiture, le tout sur un tronçon de 200 mètres. Pour l'instant, il n'a été homologué que pour contrôler votre vitesse, précise la sécurité routière, mais sachez qu'il est aussi capable de savoir si vous portez ou non votre ceinture, si vous téléphonez en conduisant et si vous respectez les distances de sécurité. Enfin, ce radar Tourelle pourra également changer d'emplacement régulièrement, car pour une cabine opérationnelle, il y aura 4 cabines l'heure. Les caméras de contrôle pourront être déplacées d'une cabine à l'autre sans que vous le sachiez. Un radar de nouvelle génération auquel il sera donc très difficile, voire impossible, d'échapper.
400 de ces nouveaux radars seront déployés cette année. Il y en aura 1200 l'an prochain.
Quand l'Assemblée s'empare du grand débat.
4 séances de discussion entre députés aujourd'hui et demain. Le sujet brûlant du jour, ce sera la fiscalité. Chacun ses propositions. Élodie Forêt, pour les députés de la majorité, l'heure est à la baisse des impôts pour les classes moyennes.
C'est la piste privilégiée par les députés marcheurs. Une fiscalité plus progressive, alléger le barème des deux premières tranches de l'impôt sur le revenu afin de cibler les classes moyennes. Bénédicte Pérol, députée de l'Allier, prendra ce soir la parole pour La République En Marche.
On a assez peu parlé de cette classe moyenne et ces 20 millions de Français qui contribuent en majorité au budget de l'État et qui se sentent oubliés, d'où cette proposition lisser l'entrée dans l'impôt sur le revenu et alléger les deux premières tranches et en parallèle, bien évidemment, la baisse de la dépense publique.
Et parmi les autres pistes qui pourront être évoquées ce soir, un impôt progressif sur le patrimoine, soutenu notamment par le député Aurélien Taché. En revanche, la baisse de la TVA pour les produits de première nécessité, longuement discutée, n'a pas été retenue. Tenu au regret de Lionel Causse, député des Landes.
C'était la restauration collective, c'était tout ce qui touchait le handicap, tout ce qui concernait les fruits, légumes et viandes, les productions locales. Je trouvais que baisser le taux de TVA sur ces sujets-là allait dans le sens de ce que l'on a voté à l'Assemblée nationale depuis le début de la mandature. Mais en politique, il faut un peu de temps. Un jour ou l'autre, on peut peut-être y arriver.
Les députés marcheurs qui, malgré certaines divergences, feront bloc ce soir, espérant convaincre l'exécutif de retenir leurs propositions.
Et qu'en retiendra Emmanuel Macron, justement, il doit clore la séquence et faire des annonces dans une quinzaine de jours. Il sera jeudi en Corse pour son dernier débat avec des élus, boycotté par l'exécutif de Lille. Ni Gilles Simeoni, ni Jean-Guy Talamoni n'y participeront. Le maire de Bastia appelle de son côté à une journée île morte, alors qu'Emmanuel Macron fait des annonces sur la langue corse aujourd'hui. Création d'une agrégation, enseignement en option pour le bac, 4 heures en première, 6 heures en terminale, c'est-à-dire dans une interview à Corse Matin. Et puis ça ne pouvait pas durer éternellement. Les tarifs réglementés de l'électricité vont augmenter cet été, prévient François de Rugy, peut-être de 6%. Le gouvernement les avait gelés cet hiver en pleine crise des Gilets jaunes.
Il est 8h05, Florence. Alger, ville sans liesse au lendemain de l'annonce de la démission d'Abdelaziz Bouteflika.
Il partira avant la fin de son mandat le 28 avril. Des élections seront donc organisées avant la fin juillet, mais le président est en train de tout verrouiller avant de partir. C'est le sentiment général à Alger où vous vous trouvez, Mathilde Dehimi.
Oui Florence, c'est en tout cas l'inquiétude des Algériens qui attendent des éclaircissements sur le bref communiqué publié en fin d'après-midi par la présidence de la République. On ne connaît pas la date précise de son départ, simplement que ce sera avant la fin légale de son mandat actuel, dans 4 semaines. Et surtout sont annoncées des mesures importantes pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions, sans préciser lesquelles. Alors est-ce seulement pour garantir la stabilité de cette transition qui sera menée par le président du Conseil de la Nation, équivalent du Sénat, un proche d'Abdelaziz Bouteflika? Ou est-ce que le Raïs veut régler quelques comptes avant de s'en aller, et notamment auprès du chef d'état-major des armées qui a plus que suggéré son départ? Le rôle du général Gaït Salah n'est pas clair non plus pour les Algériens. Certains pensent que armée et pouvoir ont verrouillé le scénario pour tenter d'étouffer le mouvement populaire. On continuera de manifester, prévient Amine. La démission de Bouteflika n'est pas un événement, dit-il.
Pour nous, notre funérailles n'existe pas. On ne sait pas. C'est les morts ou vivants, n'existe pas. Et démission, le démission de pas, c'était pareil. Nous, on attend une démission collective pour tout l'État. Les ministres, les directeurs généraux des grandes sociétés. On va attendre un changement radical pour tout le gouvernement.
Le Conseil constitutionnel doit d'abord reconnaître la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Après son départ, des élections se tiendront dans 3 mois, ce qui laisse peu de temps à de nouvelles personnalités ou partis d'émerger.
Mathilde Dehimi en direct d'Alger avec Gilles Gallinaro. Et pour tout savoir sur les acteurs de cette crise algérienne, rendez-vous sur franceinter.fr. Au Venezuela, voilà qui est de mauvais augure pour l'opposant Juan Guaido. La Cour suprême, contrôlée par le président Maduro, demande la levée de son immunité parlementaire. Le président bis, reconnu par une 50aine de pays, est accusé d'avoir quitté le territoire sans autorisation au mois de janvier. Voilà qui est sans doute très loin des préoccupations des Vénézuéliens. Sans électricité depuis début mars, les pannes se succèdent et avec elles les coupures d'eau. C'est devenu l'obsession là-bas, se ravitailler en eau. Reportage dans la cohue de la montagne d'Avila, seule source d'eau potable de Caracas, signé Benjamin Delisle.
Après 3 heures d'attente, José Antonio peut enfin placer son bidon sous le mince filet d'eau qui coule d'un tuyau qui sort de la montagne Avila.
Je viens 2 fois par semaine avec 4 bidons de 15 litres.
Il habite un quartier populaire à une dizaine de kilomètres de là, où l'eau manque depuis la première grande coupure d'électricité le 7 mars dernier.
Je n'ai pas d'eau pour cuisiner, pas d'eau pour me laver, je ne peux plus rien faire, rien, tout fout le camp.
Derrière lui, l'autoroute qui borde la villa est bloquée par des milliers de voitures qui attendent leur tour. Selon Soraya, les différentes sources de la montagne sont les dernières qui fournissent de l'eau non contaminée à Caracas.
L'eau de la villa est la plus pure qui soit. Elle est cristalline, elle vient d'en haut, elle est potable. Bref, c'est une eau adaptée à la consommation humaine.
Non loin d'elle, Angélique s'indigne d'en être réduite à sacrifier la journée de ses 3 filles pour l'aider à porter les bidons.
Vous trouvez ça normal que ces enfants, qui n'ont même pas 15 ans, passent leur journée à chercher de l'eau plutôt que d'être chez eux, devant la télé, en train de faire du sport ou n'importe quelle activité extrascolaire? Ce qu'on vit est injuste.
Et rien ne laisse présager d'amélioration, alors que José Antonio retire enfin son bidon, le feu de signalisation à quelques mètres s'éteint dans une énième coupure. Caracas, Benjamin Dalil, France Inter.
Et puis toujours à l'étranger, on apprend que l'Arabie Saoudite a grassement indemnisé les enfants du journaliste assassiné Jamal Khashoggi, des maisons de plusieurs millions de dollars et une rente mensuelle du régime accusé de meurtre. Le prix du sang, selon le Washington Post qui révèle l'information. L'itinéraire du soupçon maintenant qui colle à la peau de Carlos Ghosn. Tokyo, où l'ex-empereur de Renault-Nissan n'aurait pas déclaré tous ses revenus. Rio et son carnaval entre amis aux frais de l'entreprise. Versailles, mariage royal au château sur le compte d'un contrat de mécénat. Et désormais, Oman et ses curieux flux financiers, plusieurs millions d'euros de transferts suspects pour lesquels Maxime Debs, Renault vient de faire un signalement à la justice.
Entre 2011 et 2016, Renault a, comme Nissan, versé pour plusieurs millions d'euros à la société chargée de distribuer les véhicules de l'Alliance dans le sultanat d'Oman. Société qui intrigue depuis plusieurs semaines déjà les Japonais. C'est d'ailleurs Nissan qui a renseigné Renault. Mais de là à imaginer que Carlos Ghosn ait pu tirer bénéfice d'une double comptabilité, son avocat, maître Jean-Yves Le Borgne, sort le bouclier.
Il n'y a pas de différence entre les comptes de Renault et ceux de la présidence. Il peut y avoir une réserve qui est laissée à la discrétion, la décision du président. Cela n'exclut pas que d'autres personnes sachent que ces paiements ont lieu, en connaissent les raisons et soient à même, si par extraordinaire ces versements n'étaient pas fondés, de le faire savoir.
L'argumentaire est donc celui-ci. Aussi puissant était-il, Carlos Ghosn ne pouvait pas faire n'importe quoi. Pour les médias nippons, l'argent qui transitait par le Moyen-Orient lui aurait notamment permis d'acquérir un yacht pour lui et sa famille. Méfions-nous des emballements de la sorte, prévient son avocat, qui ne voulait hier soir pas commenter davantage dans l'attente d'en savoir plus sur cette nouvelle affaire accablant son client.
5 ans de prison ferme requis contre Bernard Tapie hier soir au tribunal. Tapie, co-organisateur et principal bénéficiaire d'une escroquerie selon le parquet de Paris, un arbitrage truqué qui lui a permis de toucher 400 millions d'euros après la revente d'Adidas par le Crédit Lyonnais. Contre Stéphane Richard, le patron d'Orange, ancien du ministère des Finances, il a été requis 18 mois de prison ferme. Aujourd'hui, place aux plaidoiries de la défense. Et puis, autre réquisitoire cette nuit dans l'affaire Air Cocaïne, cette fois 7 ans de prison demandés pour les deux pilotes arrêtés en République Dominicaine. Ils ne pouvaient pas ne pas savoir ce qu'ils transportaient, a dit l'avocat général de la cour d'assises d'Aix-en-Provence. Il a requis des peines allant jusqu'à 25 ans de prison contre les 7 autres accusés.
Il est 8h11. Comment aider, Florence? Comment aider les enfants autistes et leurs familles?
Question sans cesse reposée et aujourd'hui encore, journée mondiale de l'autisme. La secrétaire d'État aux personnes handicapées promet la prise en charge intégrale du dépistage. Mais une fois dépisté, quelle méthode adopter face à ce trouble? Véronique Julia a rencontré Emmanuel, une mère qui prône la méthode 3I pour intensive, individuelle et interactive. Elle l'a utilisée avec son fils qui a fait des progrès spectaculaires.
À 19 ans, Louis est en terminale. Il passe cette année son bac pro, option cuisine, et son rêve c'est d'ouvrir un restaurant.
Ça fait pas longtemps que je veux faire ce métier. Je suis à peu près bon dans toutes les matières.
Moyenne générale, c'est combien?
14 ou 15, ça fait une bonne moyenne.
Même si Louis a encore besoin d'une auxiliaire de vie à l'école, sa mère, Emmanuelle, n'aurait jamais cru qu'il fasse un tel chemin. Elle a compris qu'il était autiste quand il avait 3 ans. Le diagnostic est tombé pour de bon 4 ans plus tard.
À 3 ans, il ne disait rien. Quand on l'appelait par son prénom, il ne répondait pas. Il était totalement hypotonique.
Totalement démuni à l'époque, Emmanuel se tourne vers cette méthode des 3I, basée sur le jeu. La méthode consiste à placer l'enfant, au moins 40 heures par semaine, dans une sorte de cocon, sans éléments visuels, olfactifs ou sonores stressants. On joue alors avec lui, on le stimule, on le sort de sa bulle.
Croiser son regard, ça va être le premier des objectifs. Et s'il regarde, il va pouvoir mimer. Et tout d'un coup, on va voir que lui se met à faire ce qu'on vient de faire. Ah ben ça veut dire qu'il commence à communiquer. C'est vraiment l'étincelle de début.
Bienveillance, encouragement, le chemin est long, reconnaît Emmanuel, et le travail jamais totalement terminé. Mais d'après les promoteurs de cette méthode, au bout de 3 ans, 50% des enfants peuvent intégrer une vie normale, ou presque, à l'école. Ils seraient 500 à suivre la méthode en France. Elle est animée essentiellement par des bénévoles. Faute d'études suffisantes, elle n'est toujours pas, à ce jour, recommandée par la Haute Autorité de Santé.
Véronique Julia, ils sont encore 12 résidents de l'EHPAD de Lerne à l'hôpital ce matin, victime d'une possible intoxication alimentaire qui a tué 5 personnes la nuit dernière. Une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires. Enfin, c'est l'histoire d'une rumeur à l'issue tragique. Comme en écho à l'actualité, c'est pourtant d'une pièce des années 50 qu'il s'agit et qui parle d'un fait divers du XVIIe siècle. Les sorcières de Salem d'Arthur Miller, très rarement montée et remise au goût du jour par Emmanuel de Marcimota, l'espace Cardin du Théâtre de la Ville à Paris. C'est le coup de cœur de Stéphane Capron.
Depuis Yves Montand et Simone Signoret en 1955 au théâtre Sarah Bernard, l'ancêtre du théâtre de la ville, plus personne n'avait interprété sur scène le couple Proctor empêtré dans cette affaire de sorcellerie montée de toutes pièces. Arthur Miller écrit Les sorcières de Salem en 1952. C'est une allégorie du maccartisme dont il sera une des victimes. Les thématiques sont toujours d'actualité. Il y avait donc toutes les raisons pour Emmanuel de Marcimota à faire entendre ce texte aujourd'hui.
C'est la grande question de la dénonciation, de la thèse du complot, la nécessité de trouver des boucs émissaires, la nécessité de dire que c'est l'autre, c'est de la faute de l'autre finalement. si le monde va mal. Il y a toujours un responsable au mal-être du monde. Donc pour moi, la pièce, elle a des résonances extraordinaires avec le mal-être contemporain, on va dire. Il y a aussi le thème de la rumeur qui se répand, la non-maîtrise, l'irrationnel aussi qui rentre. Donc c'est une pièce qui est fabuleuse pour ça, c'est une pièce étonnante.
Cette pièce permet à Élodie Bouchès de faire son grand retour au théâtre dans le rôle de la servante Abigail, dans cette troupe de 14 comédiens du théâtre de la ville, emmenée et portée par l'immense Serge Maggiani, magistral dans le rôle de John Proctor.
Les sorcières de Salem jusqu'au 19 avril à l'espace Cardin du théâtre de la ville à Paris.
Merci Florence Paracuelos.